Amoureux des livres, bonjour. Dans le cadre de nos échanges avec l'association Les Amis du Tapuscrit, Aréopa, je vous propose aujourd'hui de rencontrer Marcel Camille pour son livre « Écrit noir, encre rouge », livre qui vient de recevoir le prix Aimé Césaire décerné par la Société des poètes français et dont la date de sortie est prévue pour le 6 avril. Bonjour Marcel.
Bonjour Nathalie.
Marcel, on va faire comme d'habitude, on va faire une petite bio pour vous faire découvrir mieux à nos auditeurs. Donc, nos auditeurs vous ont sûrement découvert lors de l'émission de Christian Malaplate du début de la semaine, avec les voix de Pétrarque. Vous avez participé à l'émission.
Oui.
Vous avez 34 ans, vous venez du Congo-Brazzaville où votre père était médecin et vous arrivez à Montpellier en septembre 2004 dans le but de poursuivre vos études en microbiologie à la fac de sciences.
Exactement.
M'arrêter, hein.
Oui, justement, je viens de faire mes 35 ans, en fait.
D'accord. Bon, je reverrai mes notes. Hein. Vous abandonnez vos études, car je vous cite, « Je les appréhendais non pas comme un vrai scientifique, mais plutôt dans une approche plus philosophique. » Alors, vous allez de petit boulot en petit boulot, nounou, jardinier, soutien scolaire, vous faites le ménage chez des particuliers, et c'est comme ça que vous rencontrez une personne âgée qui est écrivain lui-même, et vous lui présentez ce que vous écrivez depuis, que vous étiez tout petit.
Exactement.
Et c'est lui qui vous pousse à vous remettre à l'écriture jusqu'à publier votre premier livre en 2014, De l'encre sous les gravats, édité par Edilivre. C'est un livre de poésie qui nous plonge dans votre univers riche en pensées, mais aussi en souffrances. Viendront en 2015 Les petits contes pour Fleurette, recueil de poésie érotique. Et enfin, vous faites aussi des rencontres scéniques avec des lectures musicales, du slam, notamment à la librairie Tapuscrit et à la librairie Scrupule aussi.
C'est ça.
Vous ajoutez quelque chose à tout ça?
Ah non, c'est
exhaustif et complet.
Voilà.
D'accord. Je voulais vous demander en premier comment vous en étiez venu à l'écriture. C'est un peu une question rituelle ici, mais c'est vrai que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient depuis l'enfance? Est-ce que c'est un besoin quotidien d'écrire?
C'est vraiment comme une respiration. C'est ce que je me suis dit finalement au fil du temps. Et en regardant aussi un peu la manière avec laquelle je m'y suis mis. Et c'est vrai que c'est enfant déjà que je m'amusais à gribouiller comme ça quelques mots et tout, à envoyer des lettres.
C'était des textes, c'était plutôt des poésies déjà, c'était construit, c'était des pensées, des...
C'était plutôt, oui, voilà, plutôt des pensées. Et puis, au primaire, on s'amusait avec les amis à écrire des lettres d'amour aux filles de la classe et tout. Mais voilà, je n'avais pas encore cette conscience-là de ce qu'était la poésie, exactement. Et finalement, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, bon, je commençais quand même, c'était à mes 12 ans. Donc là, je tombais sur un texte de Robert Desnos, donc Le Pélican. Et voilà, j'étais assez marqué, au fait, justement par la rime. Et
le jeu des mots, il y a vraiment un jeu de mots.
Voilà,
vous ne l'avez pas,
rythme.
C'est le Pélican pour nous le lire. Sinon, on va le trouver, attendez. Allez, voilà. Alors bon, il y a une mise en page hein, sur mon téléphone qui n'est pas top, mais voilà, je vous laisse lire le texte.
Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican, lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond, à son tour, un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps, si l'on ne fait pas d'omelette avant.
Donc vous aviez 12 ans?
Voilà.
C'était à l'école? C'était un exercice scolaire?
Non, c'était pendant le travail à la maison avec mon père.
D'accord.
Donc justement, il m'a beaucoup... il a été élevé par les prêtres, donc il a eu affaire beaucoup de lettres, étudié le latin,
il avait une
le
culture
grec.
Beaucoup...
Oui, très grande, malgré plus tard ses études en médecine.
Plus scientifique, mais de toute façon, c'est un amoureux déjà
des lettres. Oui,
des lettres.
Oui, très à cheval dessus.
Et des professeurs aussi que vous avez croisés, qui vous ont ouvert un peu à ça ou pas plus?
Oui, qui m'ont encouragé, surtout au collège. Et d'ailleurs, j'en ai déçu un comme ça, en lui annonçant que plus tard, au lycée, j'allais faire... suivre un parcours en sciences naturelles. Voilà. Il m'avait dit que je le regretterai un jour.
Mais c'est revenu, c'est bien. Voilà. Vous ne l'avez pas vraiment déçu parce que vous êtes revenu dessus. Donc,
voilà.
Vous citiez Desnos, ça fait partie des hommes qui vous ont vraiment influencé, des rencontres littéraires. J'ai lu dans votre bio qu'il y avait Victor Hugo aussi. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez d'un auteur africain qui visiblement aussi a eu beaucoup d'influence pour vous. Mais je préférais que vous disiez son nom pour que je ne l'écorche pas.
Alors, dans les auteurs africains, il y en a plusieurs. Il y en a, par exemple, il y a Birago Diop. Et sinon, celui vraiment dont j'adore, je vénère le style, la plume et tout, c'est Chikaya Utamsi.
Je vais aller voir, c'est un poète.
Oui. Voilà, poète, et des années, il est né, je pense, dans les années 30.
Oui, il est mort en France d'ailleurs.
Voilà,
il était...
Très, très, très engagé.
Ouais.
Voilà, il a été la plume de Lumumba, Patrice Lumumba. Rien que, voilà, dans cet aspect-là, au fait, de son engagement et tout, c'est... Oui.
C'est vrai, j'ai été lire beaucoup. Quelques poésies de lui hier, c'est très, en effet très, très beau, et je conseille, donc, vous pouvez redire le nom pour que nos auditeurs aillent chercher à y lire ces poésies.
Chikaya Utamsi. C'est bon. L'écriture n'est pas évidente, l'orthographe de son écriture n'est pas évidente, mais voilà,
C'est très beau. Et donc Desnos aussi, alors.
Voilà, Desnos et puis Victor Hugo. Alors Victor Hugo, c'est surtout les poèmes.
Oui, parce que de Desnos à Victor Hugo.
Avec Victor Hugo, ça a plutôt été la découverte du roman, ou bien le roman non illustré. Donc j'ai commencé avec Les Misérables, et encore à ce moment-là, j'avais un peu cette appréhension là des pavés et tout.
C'est un pavé,
ah oui,
ça peut faire peur au début. Même La Légende des Siècles, moi ça, j'en ai un souvenir assez cuisant à l'école de La Légende des Siècles.
Et donc c'est un jour comme ça, en rentrant de mes cours et tout, l'après-midi, je tombe sur un livre de ma sœur, et c'était donc Les Misérables. Là je lui dis, attends, mais de quoi ça parle et tout. J'ai commencé par, tout vers le milieu, plutôt vers la fin du texte, où je tombais sur Marius, au fait, qui essayait de séduire Cosette, dans le jardin. Et j'ai trouvé ça tellement bête, sa démarche et tout, la manière dont il s'y prenait, c'était assez, tellement gauche et tout. Mais ça m'a fait un peu penser à moi aussi à ce moment-là, donc je me suis dit, bon, allez, le livre semble intéressant. Et je l'ai recommencé du coup
Vous étiez encore au Congo.
Oui, à ce moment-là. Oui.
Toute la littérature, tout ça, c'est quand même... on vous parle aussi d'auteurs africains à l'école, ou c'était surtout des...
Oui, quand même, oui.
Des auteurs français ou européens ou...
Oui, au niveau de la littérature française, quand même, on est...
C'est un pays francophone. Assez,
voilà, c'est servi, donc on a cette... ce lien assez profond, assez étroit avec la culture française, la langue française, toute la littérature et tous les auteurs classiques que l'on voit. Bon, on n'avait pas forcément la possibilité de s'acheter les livres et en entier, mais au moins des extraits. Oui, on a toujours été au contact. En fait.
Et toujours des auteurs classiques, il n'y avait pas... On vous amenait aussi à découvrir des auteurs...
Plus contemporains.
Oui, plus contemporains, oui.
Pas vraiment. Mais après, je me souviens que la dictée quand même que j'ai eue en troisième pour le brevet, c'était un texte de Malraux.
Oui.
Voilà, donc,
C'était, là aussi, il y avait une belle langue. Hein,
oui, voilà.
On va faire une petite pause musicale avec un titre que vous nous avez proposé, que je ne connaissais pas. Donc, Otis Taylor, Resurrection Blues. C'est comme ça qu'on dit bien, là, j'ai bien dit? Alors, on écoute. «
We all got to die. For some people, some people, some people got to suffer before they die. This is about a man. He's gonna be crucified. Some people die of cancer. Some people die of AIDS. But this man is gonna be crucified. This morning, from deep, deep, a deep sleep, I found out, I was Jesus. I don't want to be crucified. Thorns on my head. I don't want walk among the dead. I don't want be I was Jesus.
Nous sommes toujours sur FM+, avec Marcel Camille, que je reçois aujourd'hui pour Écrit noir, encre rouge, et qui, je rappelle, vient de recevoir le prix Aimé Césaire, décerné par la Société des poètes français. Marcel, vous nous en dites un peu plus sur Écrit noir, encre rouge, ce que vous racontez dedans, ce que vous dites de vous, de votre pays, de vos souffrances aussi, parce qu'il y a des textes durs.
Alors, Écrit noir, encre rouge, ben déjà c'est un recueil de poésie. Mmh. Et dedans, justement, je déclame un peu ce qui se vit, enfin ce qui a été vécu jusqu'à une certaine période, avant ma venue ici en France, et aussi actuellement ce qui s'y passe encore, avec la situation très difficile dans la région du Poule, notamment dans le sud du Congo-Brazzaville, où je suis né, et en même temps ce flou qu'il y a dans justement la politique locale, qui ne s'est toujours pas améliorée entre guerre civile et voilà, mouvement d'exode, voilà, des réfugiés et tout.
Ce sont des textes engagés.
Ouais, c'est engagé.
Vous pouvez peut-être nous en lire un pour nos auditeurs qui leur fera, puis on reviendra dessus après. Là, je vous ai choisi un très beau texte, je vous laisse le lire.
Mmh. Ah oui, celui-là, ben, il est assez général en fait dans la thématique.
D'accord.
L'homme a-t-il finalement perdu dans son langage le sens même de ce qu'il est? Dans ma langue maternelle, je suis le Muntu. Depuis des millénaires à des siècles et des siècles, je suis l'homme ou la femme capable de devenir l'autre. Je suis un être d'abord humain. Les peuples sont bantous, puisque ce sont des hommes. Aujourd'hui, les langues modernes ont apporté et imposé les notions de couleur et d'apparence pour reformuler et classifier les identités. D'ailleurs, la notion d'être est quasi à l'agonie dans le cœur du mot individu, cantonné derrière les barrières d'une fonction. Je ne deviens qu'une simple variable que l'on peut ajuster à souhait. Nous ne sommes plus que des apparences, des statuts, des blancs, des noirs ou blacks, des jaunes, des peaux rouges, des bruns, des roux. Bref, notre présence se calque sur des fils de teinte. Or, il suffit d'un chiffon, une éponge, pour effacer les couleurs. Je n'ose regarder ce qu'il reste lorsque tout est effacé. Des choses à la merci des mots. À la merci des mots, M-A-U-X, des autres, et du bon vouloir du temps. Avons-nous encore le privilège d'espérer une rédemption? Un espoir de vivre lorsque l'ensemble des éléments de notre langage au quotidien et lui-même déshumanisé.
C'est un texte qui est presque c'est un cri aussi, hein,
oui.
Mais qui est une poésie universelle. Là, c'est pas, pour en venir à Aimé Césaire, c'est pas africain. C'est tous les hommes, c'est un caractère vraiment universel.
Oui.
C'est ce que vous remettez beaucoup dans le livre ou c'est...
Oui, en tout cas, je tiens à le rappeler assez souvent dedans, au fil des textes, d'une certaine manière, on vit sous divers angles les mêmes problèmes, quasiment.
À travers le monde, c'est une conscience que vous avez ça beaucoup, même dans vos rencontres, quand vous êtes dans l'altérité, dans le regard sur l'autre.
Exactement, exactement. Après, ce sont, je dirais les difficultés que l'on a, enfin la façon dont on s'agrippe à ça, on essaie de se cantonner à ça, qui fait que ça biaise un peu la vision de l'autre. On ne cherche pas vraiment à creuser ce que l'autre peut vivre aussi comme
Vous
problème.
Avez été chercher votre prix la semaine dernière, je crois.
Oui.
On vous a dit de belles choses à Paris dessus. Il y a des choses qui vous touchent dans ce que les gens ressentent de votre poésie. Parce que là, vous nous avez lu un texte en prose. Il y a aussi des textes beaucoup plus construits,
voilà,
de
façon plus, oui,
plus classiquement poétique. Oui. Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Parce que là, ça a été un moment de grâce, je pense, que de recevoir un prix déjà.
Oh oui, oui.
Et puis, oui, c'est l'occasion aussi plaisir. D'avoir des beaux messages d'amour, presque, oui. sur vos textes.
Ben, pas mal de félicitations. Les gens sont venus vers moi pour m'encourager. Mm-hmm. Et puis aussi me demander, voilà, par curiosité, si, comment moi j'avais vécu le racisme aussi, personnellement. À certains moments et tout. Donc,
et
voilà.
Alors, vous l'avez vécu comment?
Oh, c'est...
Très bien voilà. C'est super, le racisme.
La preuve, je suis en vie. Non, mais...
C'est un réel... Voilà, je pense que c'est idiot, ma question, mais vous êtes tellement solaire que je ne vois pas comment on peut être raciste. Enfin, déjà, j'ai du mal à penser comment on peut être raciste, mais vous êtes... Enfin, vous avez une personnalité tellement formidable, je trouve, et tellement généreuse que...
En général, c'est juste l'ignorance qui est à la base du racisme.
Mais vous en avez souffert quand même.
Oui, à un moment donné, on encaisse au fait. Ça, on relativise. Et à un moment donné, quand on est seul, on se demande quand même pourquoi, qu'est-ce qui pousse à ça. Surtout aussi, quel est le problème chez l'autre qui pousse à devenir comme ça? Ça, c'est une autre étape, finalement, de la question. Mais pour arriver à ça, avant d'y arriver, on se demande, mais oui, voilà, à quoi ça conduit et qu'est-ce qu'on y gagne, finalement? Voilà. Moi, personnellement, ça a été, par exemple, un jour, j'étais avec mon ami c'était à la rivière, comme ça, et puis des jeunes qui passent dans le canoë qui ont commencé à faire des cris de singe, comme ça, et puis bon. Donc, ce que je veux dire, c'est sympa, les gens aiment la nature, c'est bien.
Oui, il faut mieux, enfin, c'est vrai que quand on peut, c'est bien de réagir avec de l'humour. Il y a des fois, bon, on ne peut pas tout non plus filtrer par l'humour, il y a des choses qui sont quand même pas du tout acceptables. Ouais. Et c'est ces moments de vie-là aussi que vous remettez dans le livre? Dans les poésies?
Je le rappelle par moment, oui. Donc, que ce soit, voilà, dans... Il y a des petits textes comme ça. Ouais.
Parce que là, vous en parlez avec légèreté et humour de la scène de la rivière, mais je pense qu'il y a eu des moments où c'était quand même plus lourd à porter,
oui,
avec
beaucoup.
Plus de souffrance.
Oui.
Et on n'est pas toujours en état de recevoir quand même la méchanceté, la cruauté.
Ça reste un instant assez... Où l'on s'interroge, voilà, c'est intriguant. Après, on en fait un peu aussi ce que l'on veut. Voilà. Moi, d'une certaine façon, ça me permet de mieux analyser le monde, de voir aussi sa mécanique, son fonctionnement, et puis ses défaillances aussi, enfin ses faiblesses.
Le fait que ça soit le prix Aimé Césaire, c'est quand même aussi lourd de sens, parce que c'est quelqu'un qui a tellement été engagé là-dessus.
Oui, oui. Et quelqu'un de très humain, très très humain, et très, vraiment très ouvert dans la dimension, en fait, de, je dirais, l'écriture.
C'est... Même en Afrique, vous le connaissiez? Parce que c'est pas...
C'est... Bon, c'est vrai que nous, la référence en termes de la négritude, c'est plutôt Léopold Sédar Senghor.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, je suis nettement plus âgé que vous, mais pour moi, c'était la référence. Moi, je suis des années Pompidou, en plus, il était très ami avec Pompidou. Je ne sais même pas s'il n'avait pas été à École Normale ensemble. Enfin, bon, vraiment, c'est quelqu'un qui était très important dans la vie culturelle de la France des années 70.
Exactement, exactement.
Aimé Césaire, on en a parlé bien après. Et en plus, Aimé Césaire, il y avait quand même tout un côté vraiment militant.
Exactement, oui.
Qui était moins fort chez Senghor, qui était déjà un homme d'État, donc qui pouvait être forcément moins, moins militant. Voilà.
Mais il a cette dimension où il fait quasiment l'unanimité. Voilà. Justement, son action qui est moins politique que Léopold Sédar Senghor.
Oui, qui est resté plus aussi dans le culturel et l'écriture. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce livre? On peut aussi parler de tout un autre pan de votre art, qui est l'écriture érotique. C'est important aussi. Hein.
Je vois où.
Je vous en ferai pas lire. Mais c'est quelque chose qui est très joli aussi, avec vous en faites des lectures d'ailleurs de ça aussi.
Oui, assez souvent. C'est que ce soit à Scrupule, à la salle Pétrarque, à Montpellier, ou à la librairie Tapuscrit, donc lors des salles ouvertes.
Le livre, c'est... le titre m'a beaucoup plu hier. Petit conte pour Fleurette.
Oui, ça c'était l'origine, en fait, le premier titre. Mais finalement, j'avais fait modifier, c'était Conte et Fleurette.
Conte et Fleurette, pour jouer avec, sur le... Voilà. Oui,
Conte et Fleurette, ou les sornettes d'une tricranliesse.
Non, mais c'est bien aussi l'érotisme, hein, c'est sain.
Je pense très bien, ça permet de respirer un peu.
C'est très sain. Est-ce que vous auriez un autre texte avant de nous quitter à lire? Peut-être, on n'en a pas choisi avant, mais ça me ferait plaisir. Et je pense que ça ferait vraiment plaisir à nos auditeurs d'entendre un autre texte d'écrit noir et encre rouge.
Oui, je peux en trouver. Hein.
Qui, je rappelle, est prévu pour le 6 avril. On peut en parler lors d'une soirée, un après-midi que vous allez proposer à la librairie Tapuscrit, je crois. Hein?
Oui, le 6 avril, donc, j'y serai pour une journée de dédicace.
Entouré d'amis.
Entouré d'amis.
Ça va être la fête à Marseille, un peu.
Donc, ce sera la première présentation du bouquin. Et donc, on prévoit aussi des lectures à plusieurs voix, et une animation musicale.
D'accord. Voilà.
Et
donc,
je laisse la surprise.
Ça sera le samedi
6 avril, voilà,
à partir de
15h jusqu'à 18h.
Parce qu'il y a un autre concert le soir.
Voilà, il y a un autre concert à 19h30 et il faudrait qu'on leur laisse la place pour qu'ils aient le temps de se préparer.
D'accord, c'est vraiment une belle occasion de vous découvrir, de découvrir le livre et pour ceux qui ne la connaissent pas, de découvrir
la librairie Tapuscrit. Ouais.
Voilà, on vous écoute.
Moi, étranger, je suis le roseau qui ploie sous la contrainte des vents incertains. Je suis l'herbe arrachée dont on oublie l'éros exalté. L'herbe qui s'enracine par le chant de l'enfant rêveur endormi. Je survis aux injures de la défiance puisque je suis, face à la peur, le chancre des peines, le verticille des joies, celui de l'amour, mais aussi des haines et de l'ignorance. Je suis moi, mais je suis peut-être toi, une rayure sur le manteau de la vie, un manteau frappé de toutes les poussières de notre temps.
Merci beaucoup Marcel. Merci pour ces beaux mots. Merci pour ce joli moment.
Merci, vraiment. Merci grand pour ton invitation.
Je vous rappelle que vos ouvrages sont disponibles chez Tapuscrit, donc 7 rue Raoult, et puis sur différents salons, puisque il y aura beaucoup de salons avec Tapuscrit, à chaque fois il y aura vos œuvres devant.
Voilà, on pourra commencer, je pense, avec la comédie du livre qui arrive, et puis après...
On sera présent, on pourra vous y rencontrer en plus. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas venir le 6, on se donne rendez-vous à la comédie du livre. Merci vraiment beaucoup Marcel.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.